Chapitre 8.
Elle vient d'ouvrir les volets, se penche vers la rue. Elle étend la main pour voir s'il pleut. Elle porte une de mes chemises, comme d'habitude au réveil. Elle disparaît, laisse la fenêtre ouverte. Je recule dans le renfoncement où je me gèle depuis une heure. Elle a toujours dormi nue et passé ma chemise de la veille pour aller préparer le breakfast. Le seul rite de nos débuts qui résistait au temps. Mon estomac se serre au souvenir de l'odeur de café qui venait chaque matin se glisser dans mes rêves. J'allais la rejoindre à la cuisine et on faisait l'amour un jour sur deux, suivant le programme du talk show qu'elle regardait distraitement d'une pièce à l'autre sur les trois télés branchées en permanence, à moins que l'intérêt du sujet ou la célébrité de l'invité ne la cloue devant l'écran géant sur le canapé du salon, plateau sur les genoux. Alors j'emportais ma tasse dans la salle de bain. Ce matin, je n'ai eu que du thé vert, sans théine, et des galettes au soja. Le petit déjeuner du neuropsychiatre. Il dormait encore, la femme de ménage repassait des slips à côté de mon bol. Elle m'a dit que j'avais meilleure mine que la veille. Je lui ai répondu que sa daube était délicieuse. « Pourquoi ? Vous avez demandé au chien ?» J'ai rougi dans la chaleur du fer. Elle a haussé les épaules, a ronchonné qu'elle avait l'habitude de cuisiner pour rien avec le docteur. Un appétit de moineau. Elle partait au marché de Rambouillet, a voulu savoir ce qui me ferait plaisir pour le déjeuner. Je lui ai demandé de me déposer à la gare. Le médecin m'avait fait du bien, moins par ses théories sur mon coma que par sa propre situation, ses confidences, sa détresse résignée, son impuissance active. Je lui ai laissé un mot de remerciement sur la table. Dans le jardin qui s'égouttait au soleil, Bernadette appelait le chien en vain. « Encore la Doberman d'à côté qui est en chaleur » a-t-elle râlé en décapotant le roadster. Elle conduisait comme une vraie myope, corrigeant constamment sa trajectoire, franchissant la ligne blanche en accélérant dans les virages, provoquant les appels de phare des autos qu'on croisait. Elle beuglait par-dessus le rugissement du moteur dans les tourbillons d'air. « Avec mon homme, on faisait des rallyes quand on était jeune. C'est moi qui ai appris à conduire au docteur. » Un break bleu nous suivait depuis l'entrée dans la forêt. Soudain, il nous a doublés au milieu d'un lacet, avec une queue de poisson. Le coup de volant qu'a donné Bernadette a failli nous envoyer dans le ravin. Elle a rouspété 5 minutes contre les gendarmes du village qui, d'après elle, étaient bourrés dès l'aube. Je n'avais rien dit, mais ce n'était pas une voiture de gendarmerie. La parano m'a repris dans le train pour Paris. Je me sentais épié derrière les journaux, changé de wagon à chaque gare. Je revoyais le camion jaune foncer sur le taxi de Muriel Caradé. La moto du Forum des Halles. Lise revient à la fenêtre, secoue une nappe. Les miettes glissent le long de la pente en ardoise, tombent dans le chéneau. Elle s'attarde à contempler la vue. Elle a l'air beaucoup plus détendue qu'à Greenwich. Je ne sais pas ce qu'elle faisait de ses journées. Elle me disait le golf, les courses, le bridge au country club, les œuvres de la paroisse, mais le soir, en rentrant de l'université, je la retrouvais au même endroit du canapé, avec un verre de scotch et les infos de CNN. D'après le kilométrage de sa voiture, si elle sortait, c'était à pied. Elle referme la fenêtre. J'essaie de me rappeler l'appartement, de visualiser les pièces que je ne connais qu'à travers les photos de Kermeur envoyées par Internet. Le salon mansardé surplombant le faubourg Saint-Honoré, la grande cuisine donnant sur cour, et la chambre en face de laquelle je monte la garde, rue de Duras. Un style vieillard et bonbonnière, des poupées partout, à l'intérieur de vieilles dames. Je me demande comment Lise l'a transformée en une semaine, elle qui avait fait de ma maison en tuiles de bois un modèle de déco Nouvelle-Angleterre. Je revois notre dernier lundi à Greenwich. Dans le silence de la forêt déjà rougie par l'automne, cette forêt qui l'oppresse en hiver et lui donne des allergies au printemps. Encore un de ces matins où je vais partir en la laissant s'abrutir de barres énergétiques devant le Jenny Jones Show, tandis que l'animatrice extasiée balade son micro parmi les voyantes pour donner aux gens du public des nouvelles de leurs disparus, entre deux pubs où des avocats vantent leur efficacité contre les médecins en cas de mauvais diagnostic. La vedette du jour est une bimbo surgonflée qui communique avec les animaux, et sert d'interprète entre un labrador et son maître. Lise adore, elle y croit. Elle note les coordonnées des médiums, y compris celles de la traductrice pour chien, alors qu'on n'a pas d'animaux. Je lui reproche cette crédulité. Elle me lance en riposte que je ferais mieux de me taire avec mes arbres qui parlent. Je m'énerve, dis que ça n'a rien à voir, que c'est l'exploitation des naïfs en souffrance qui me gêne, pas le phénomène. Et on s'engueule sur fond d'avocats racolant en musique. Elle me traite de schizo, je la gifle. Elle tombe en arrière, s'entame le front sur le pied du lampadaire. Je relève les yeux. Mon remplaçant est accoudé à la rambarde avec une tête de grasse matinée. Il fume, détaché, paisible, dans mon pyjama Hermès de l'aéroport Kennedy. Elle lui tend une tasse, il la prend sans regard, machinal, comme s'il était dans cette vie depuis aussi longtemps que moi. Une mère avec deux petites filles en tenue de tennis tourne le coin de la rue. Elles se racontent des secrets derrière leurs raquettes, me jettent un coup d'œil et continuent leurs confidences, leurs rires sous cape. La mère les presse, ouvre la porte arrière de sa voiture, les engouffre à l'intérieur en leur poussant la tête, comme font les policiers quand ils arrêtent quelqu'un. Lise aurait voulu un enfant. Moi, je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ai trop souffert du naufrage de mon père pour avoir envie d'être appelé papa. J'aurais bien aimé apprendre les arbres à un petit garçon, c'est tout. Mais je n'aurais pas supporté qu'il s'en foute, m'écoute avec une distraction de chewing-gum et retourne à ses jeux vidéo. C'est étonnant comme je continue à avoir des pensées d'avant, des nostalgies dérisoires dans ma situation présente, des remords de conduite qui prennent le pas sur mes griefs de victime. Le mal que j'ai pu faire à Lise n'est pas grand-chose en regard de ce qu'elle me fait subir aujourd'hui, mais ça ne change rien à ce que je ressens. Même s'il n'y a plus rien entre nous, tout ce que j'ai éprouvé pour elle est intact, incroyablement neuf. Étrange comme le fait d'être exclu du présent redonne une jeunesse au passé. Ils sont rentrés, ils ont refermé la fenêtre et j'entends lointain, étouffé, un son de piano. C'est peut-être lui. S'il en sait autant que moi en botanique, logiquement, il est pianiste. Mais pour quelle raison cet élément de sa personnalité aurait-il déteint sur moi, et seulement celui-là? Pourquoi, si nos mémoires ont fusionné, n'ai-je pas d'autres réminiscences qui viennent de lui? Je sursaute. Un orchestre vient de s'ajouter au piano. C'est un enregistrement. Ça ne prouve ni ne résout rien, mais je souris quand même, comme si je marquais un point sur l'absurde dans lequel je me débats. Comment définir ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas dans ma position? J'ai beau ressasser l'hypothèse du docteur Farge sur mon ubiquité mentale, la façon dont ma conscience en état de mort imminente se serait greffée dans le cerveau de mon rival, cette infestation qui aurait fait de lui mon duplicata, je n'y crois pas. Mais je n'ai pas d'argument pour justifier mes doutes. Sinon l'impression toute personnelle qu'à part mes souvenirs, il n'a rien de moi. Des effluves de graillons s'échappent de l'aérateur au-dessus de ma tête. Il est 11 heures, les cuisines du restaurant se sont mises en route. L'odeur âcre et sucrée fait remonter mes années de fast-food à Coney Island, sous ma toque de chez Nathan's. Je revois mes sorties de classe, les 10 stations de métro aérien entre la John Dewey High School et Surf Avenue, le bâtiment blanc aux toits terrasses étalant ses lettres d'or sous une saucisse souriante, à l'ombre de la carcasse du Grand 8 désaffecté, more than just the best hot dog. Et cette odeur qui s'incrustait, qui résistait à tous les shampoings, cette odeur de mes nuits au fourneau qui faisait froncer le nez des copines de collège, cette odeur qui paierait un jour mon entrée à l'université et qui, pour l'heure, me privait de sortie. Je sais pourquoi l'autre est faux. Ça se voit à son visage, son naturel, son détachement. Il n'a jamais eu honte. Il n'a jamais traqué le mépris dans le regard des filles. Il n'a jamais senti la frite. Je sais bien que cet argument ne pèse rien à côté des preuves que j'attends sur mon identité, mais c'est celui qui résonne le plus profond en moi. Le manque de honte. Et j'ai davantage de haine pour lui à l'évocation de ce manque, je crois, qu'à la pensée de l'amour qu'il a pu faire à Lise derrière les volets que je fixais. Comme si je lui en voulais moins d'être faux que de n'être pas suffisamment vrai. Elle vient de sortir. Elle traverse en biais, tourne au coin de la rue, part vers les Champs-Élysées en prenant le trottoir côté soleil. Je sors de mon renfoncement, lui emboîte le pas à distance dans la foule des touristes. Elle est vêtue d'un tailleur sexy que je ne connais pas, son imper sur les épaules. Elle a l'air insouciante, regarde les vitrines, se recoiffe en transparence, vérifie discrètement si les hommes se retournent sur elle. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle, si rigide, si coincée en dehors du lit. Elle oblique dans l'avenue de Marigny, presse le pas en regardant l'heure. Un homme me bouscule, genre culturiste énervé. Il s'arrête, demande des excuses. Je le repousse, enjambe les documents qu'il a laissés tomber. Les yeux sur la silhouette qui creuse l'écart sous les marronniers, j'accélère. Il me rattrape par le bras, exige en élevant la voix que je lui demande pardon. L'instant d'après, je le regarde, plié en deux sur le sol. Je n'en reviens pas de ma force, de la précision de ce coup de karaté qui m'a échappé en réflexe. À part les tractions quand je grimpe aux arbres, je n'ai jamais le temps de faire du sport. Comme je n'ai jamais appris le piano. Je m'esquive tandis qu'un petit attroupement se forme autour du colosse qui se tortille sur le pavé. Je slalome entre les groupes et les voitures, traverse en courant vers le théâtre Marigny. La file d'attente au guichet de location me fait descendre du trottoir. Des camions régis reliés par des câbles me cachent le carrefour. J'allonge ma foulée, stoppe devant le flot des autos fonçant vers le rond-point, tourne la tête en tous sens. Je l'ai perdu. Soudain, je vois ses cheveux disparaître dans la bouche de métro. Je me précipite, dévale les marches, la retrouve au moment où elle prend la direction, la Défense. Elle remonte le couloir où jouent des violonistes, se met brusquement à courir. Je me dis qu'elle m'a repéré, mais c'est peut-être juste à cause de la sonnerie qui a retenti. Elle saute dans la rame bondée. Je m'y engouffre au moment où les portes se referment. Reprends mon souffle en dévisageant mes voisins. Elle est debout à 20 mètres de moi. Je ne sais pas si elle m'a vu, si elle essaie de me semer ou si elle est simplement en retard. À chaque station, je joue des coudes pour vérifier si elle descend. La troisième est la bonne. Je la vois filer vers la sortie, avenue de la Grande Armée, obliquée en suivant le panneau côté numéro pair. Pas une fois elle n'a cherché son chemin. Ou elle a déjà fait ce trajet, ou elle me balade. Elle se hâte à la surface, boutonne son imper sous le vent qui s'est levé, descend l'avenue, tourne dans une rue à sens unique. Elle s'arrête devant un hôtel et se retourne soudain. Je l'ai senti une seconde avant, je me suis planqué derrière un tronc. Son regard fouille le trottoir sans aller jusqu'à mon arbre. Elle entre. Je cours jusqu'à la façade que je longe, le front contre les vitres, essayant de distinguer l'intérieur derrière les rideaux. C'est un bar. Je la vois hésiter sur le seuil, puis s'avancer vers les tables près du comptoir. Je me retire aussitôt, marche vers le portier qui manœuvre son tambour. Je traverse le hall d'un air de client, m'approche de l'entrée du bar pour étudier la carte. Lise est assise sur un canapé d'angle, près d'un jeune d'une 20aine d'années, sourire malin, blouson sans manches. Un gros appareil photo est posé sur le guéridon, à côté de son verre. Il le lui montre avec fierté, lui passe un bras autour du cou. Suffoquée, je la vois qui tend ses lèvres, lui donne un baiser passionné, un baiser de retrouvailles. Comme celui qu'elle échange avec un inconnu dans mon rêve de la 6e avenue, sous le montant de la dette nationale. Un maître d'hôtel s'avance vers moi. Je bats en retraite, retourne jusqu'au tilleul qui m'a caché tout à l'heure. La jalousie que je ressens n'est même plus une violence. C'est un gouffre, une chute libre. Combien a-t-elle d'amants? Combien d'hommes va-t-elle mettre dans ma vie? Celui qu'elle a installé rue de Duras ne lui suffit déjà plus? Combien de fois va-t-elle me tuer dans les bras d'un autre? Elle est malade, elle est certainement devenue folle. Et cela couvait dans toutes ces années de silence, de pétards, de dépression cachée sous l'ennui conjugal. J'ai trouvé le point de rupture, cette gifle à cause du Jenny Jones Show. Mais quelle est la vraie origine du problème? Son renvoi du cabinet d'avocat, dont elle ne m'a jamais donné une raison convaincante? Mes expéditions sans elle dans toutes les forêts du globe? Ou la routine de mes heures de labo à 50 miles de chez nous? Chaque fois que je la trouvais bizarre le soir, elle déviait mes questions en m'interrogeant sur l'avancée de mes recherches, et elle avait l'air si captivée, au début, que je ne voyais pas le subterfuge. Je lui racontais mes intuitions, mes expériences, mes découvertes incroyables. Elle s'extasiait, et ça suffisait à me rassurer sur elle. Persuadé de la faire rêver, je dormais tranquille. Le photographe sort le premier, son appareil à l'épaule, sourire en coin. Il enfourche un scooter marqué « Presse ». 3 minutes plus tard, elle quitte l'hôtel à son tour et remonte vers le métro, avec la même expression qu'à l'aller. Je lui emboîte le pas, machinalement, sans chercher à comprendre d'où sort ce garçon. Pourquoi ce rendez-vous est si court? Pourquoi elle a l'air si indifférente, uniquement préoccupée de son image dans les vitrines? J'accélère pour l'aborder et je me ravise. Pas ici, pas en situation de filature, pas en position de force.